Vous êtes bien sur RFI, Radio France Internationale. Il est 10h30 ici à Paris, 8h30 en temps universel.
Xavier Besson.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière édition d'Afrique Matin. À la une aujourd'hui, le Mali et la détresse des habitants de Diafarabé dans le centre du pays. Des proches d'une vingtaine d'hommes arrêtés par les militaires au début de la semaine. Avant-hier, ils ont enfin été autorisés à se rendre sur les lieux pour y découvrir des fosses communes remplies de cadavres. Dans ce journal également, les avocats de l'opposant guinéen Alioubia, ils ont porté plainte contre l'État et une audience a eu lieu hier à la Cour de justice de la CEDEAO. On fera le point aussi sur les discussions en cours sous l'égide des États-Unis entre la RDC et le Rwanda en vue d'un possible accord de paix. Et puis reportage en Afrique du Sud, le centre de Johannesburg s'est transformé hier en piste de danse géante. Une vingtaine de corps égorgés, abandonnés dans trois fosses communes au Mali. C'est ce que les familles des hommes arrêtés lundi sur le marché à bétail de Diafarabé, dans le centre du pays, ont pu découvrir avant-hier lorsque l'armée malienne les a enfin autorisés à se rendre sur les lieux, à la condition de ne pas emporter de téléphone pour ne pas prendre de photos. David Bachet.
Une vingtaine de corps égorgés dans trois fosses communes. C'est ce que les familles ont découvert lorsque l'armée les a enfin autorisés à se rendre sur les lieux. Mais sans téléphone, pour ne pas prendre de photos, selon les témoignages recueillis par RFI. En état de putréfaction, les dépouilles ont été recouvertes de sable. Pendant trois jours, les habitants de Diafarabé n'avaient cessé de réclamer la vérité. Des manifestations avaient eu lieu devant la mairie. Les soldats maliens avaient d'abord assuré que les prisonniers seraient bientôt de retour et interdisait depuis lundi aux habitants d'accéder à la rive du fleuve où ils avaient été emmenés. Les djihadistes du Jnim, liés à Al-Qaïda, sont actifs dans le secteur et mènent régulièrement des attaques meurtrières contre l'armée. Les habitants et les sources communautaires joints par RFI assurent que les personnes exécutées lundi par les soldats maliens sont des commerçants civils et dénoncent un ciblage de la communauté Peul. En tout état de cause, les prisonniers arrêtés sur le marché, sans combat, n'ont pas été traduits en justice, mais exécutés sommairement. Dans un communiqué, l'armée malienne affirme qu'une enquête de gendarmerie a été ouverte sur des allégations de disparition de civils, dont elle dénonce l'instrumentalisation à des fins subversives. Une argumentation récurrente des autorités maliennes de transition lorsqu'elles sont confrontées à des accusations d'exaction.
David Bachet, le Mali, où le haut-commissaire de l'ONU pour les droits de l'homme demande aux militaires au pouvoir à Bamako de revenir sur le décret de dissolution des partis politiques pris il y a quelques jours. Décision qui risque, selon Volker Türk, de réduire au silence les voix dissidentes, dit-il, et pourrait aggraver les problèmes plus généraux en matière de droits humains. Le Mali, touché comme ses voisins du Burkina et du Niger par des attaques djihadistes, il est illusoire de penser que cela restera dans les frontières de ces trois pays. C'est ce qu'a déclaré hier à Ouagadougou Ousmane Sonko, le premier ministre sénégalais, venu évoquer dans la capitale burkinabé des possibilités de collaboration dans ce domaine. Alors que dans le même temps, à Dakar, le départ de l'armée française se poursuit. Départ du Sénégal avec la restitution hier de l'emprise contre-amiral Proté sur le port de Dakar. Les deux dernières bases françaises devraient l'être à leur tour dans les prochains mois.
RFI.
RFI en Guinée, où le feuilleton judiciaire autour d'Alioubia continue. L'opposant guinéen, leader du parti Modèle, arrêté au mois de décembre, condamné en première instance à 2 ans de prison ferme pour offense et diffamation envers le président de la transition, Mamadi Doumbouya. Désormais, on attend pour la fin du mois le verdict de son procès en appel. Et en parallèle, ses avocats ont attaqué l'État guinéen devant la Cour de justice de la CEDEAO. Les plaidoiries ont eu lieu hier et maître Pépé Antoine Lama, l'un des avocats d'Alioubia, explique ce matin de quoi il retourne.
Nous avions plaidé la violation du droit à la liberté individuelle de M. Mamadou Alioubia, de la violation de la liberté de réunion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression et de son droit de ne pas faire l'objet d'arrestation et de détention arbitraire. Nous avions plaidé ces éléments en nous fondant sur son arrestation et sa détention arbitraire depuis le 26 décembre 2024. Et nous avons espoir que nos arguments vont être admis par la Cour de justice de la CEDEAO. Nous voudrions que cette Cour rappelle à la Guinée le respect de ses engagements internationaux en matière de respect des droits de l'homme. Nous voudrions également que cette Cour demande respectueusement à l'État de la République de Guinée de bien vouloir remettre en liberté M. Mamadou Aliouba.
Maître Pépé Antoine Lama, avocat d'Aliouba au micro de Tanguy Bihan. Et notez que la Cour de justice de la CEDEAO n'a pas encore donné de date pour rendre sa décision. RFI, 9h35 à N'Djamena au Tchad où l'opposant Succès Masra est désormais poursuivi pour incitation à la haine et à la révolte et pour complicité d'assassinat, d'incendie volontaire et de profanation de sépulture. L'ex-premier ministre, président du parti Les Transformateurs, arrêté hier matin à l'aube à son domicile de N'Djamena. Dans la journée, les autorités ont communiqué pour détailler ce qui lui est reproché, parlant notamment des violences de mercredi dans la région du Logon occidental, où plus de 40 civils ont été tués, et mentionnant un enregistrement audio attribué à l'opposant. Les transformateurs sont partis, rappellent qu'ils sont une formation pacifique et appellent à la libération de Succès Masra. En République démocratique du Congo, les leaders religieux, catholiques et protestants s'en remettent désormais au chef de l'État. Hier, la CENCO et l'ECC ont pris la parole pour dire qu'elles avaient fini leur consultation de ces derniers mois et qu'elles se tenaient prêtes à remettre leur rapport à Félix Tshisekedi, des religions catholiques et protestants, pour qui la solution à la situation, notamment dans l'Est congolais, passe par l'organisation d'un grand dialogue national. Dans le même temps, des pourparlers continuent de se tenir entre Congolais et Rwandais, à Kinshasa comme à Kigali. On confirme avoir reçu une version d'un projet d'accord de paix transmise par le médiateur américain. Texte provisoire, nouvelle étape dans le processus engagé sous l'égide de Washington. Mais les incertitudes et les blocages sont encore nombreux. Patient Ligaudy.
D'après les sources diplomatiques, les deux parties ont jusqu'à ce dimanche pour soumettre leurs contributions et amendements au projet d'accord de paix proposé par les États-Unis. Ce texte, encore à l'état de brouillon, devra faire l'objet de nouvelles discussions. Selon une source diplomatique, il ne s'agit pas seulement de faire avancer ce projet, il faut également l'aligner sur d'autres initiatives en cours. Parmi elles, un autre document circule, jusque-là tenu secret. C'est un projet d'accord proposé par les autorités qataries aux représentants du gouvernement congolais et aux délégués de la FCM23, dans le cadre des discussions sur les dimensions internes du conflit. Aucun détail n'a filtré sur son contenu. Et sur le terrain, les combats se sont poursuivis cette semaine, ce qui complique davantage les perspectives de compromis. Et malgré ces contextes, sur le plan diplomatique, les États-Unis poussent et cherchent à maintenir l'implication des autres acteurs du processus, la France, le Qatar et l'Union africaine, représentés par le Togo. Là encore, les dynamiques restent fragiles. Une réunion devait se tenir à Lomé sur le dossier RDC-Rwanda, mais la date reste pour l'heure indéterminée.
La précision et explication signée Patient Ligaudy. Enfin, c'est une opération inhabituelle destinée à donner le sourire en Afrique du Sud, dans l'hypercentre de Johannesburg. Plus de 1000 personnes ont dansé hier dans les rues, à la baguette plusieurs organisations et employés de la ville, en collaboration avec un studio de danse qui souhaite montrer une autre image du CBD, le centre-ville, souvent associé aux gangs et au trafic de drogue. Reportage de Valentin Hugues.
Avec les quelques danseurs professionnels, il y a beaucoup de travailleurs sociaux comme Boussi Siwe.
Vous l'avez.
Au quotidien, on travaille sur la sécurité des habitants. Aujourd'hui, avec la danse, on leur fait oublier leurs problèmes.
Dans les rues, la danse fait oublier le crime. Cette foule surmotivée distribue de la joie et de la bonne humeur.
Rien ne nous divise. On vient de différents quartiers et on est tous ensemble.
Nous sommes avec Sonny Boy, le directeur artistique qui a tout orchestré.
C'est une chorégraphie pour connecter les gens. Dans cette rue, des lampadaires vont bientôt être installés, donc on chante à la gloire de la lumière pour que Johannesburg reprenne vie.
Et à travers les fenêtres des immeubles, des bras se lèvent, les corps bougent, certains sortent même de leur bureau pour taper des mains. Nous assistons au grand final, au cœur de la ville, avec Ivan, 34 ans, assise sur des marches d'escalier et envahie par l'émotion.
Just see.
Mon fils a déjà été impliqué dans de mauvaises affaires. Il pourrait danser pour s'en sortir, je serais la plus heureuse du monde. Parce que de voir ça aujourd'hui, ça me donne un sentiment de dignité. Honnêtement, je pourrais en pleurer.
Paris réussit pour ces danseurs qui ont même du mal à mettre fin au spectacle. Valentin Hugues au milieu des danseurs à Johannesburg, RFI.
Et à Johannesburg, comme ici, à Paris, il est maintenant 10h40. Passez une excellente journée à l'écoute de la Radio Mondiale.